Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire forte, une lutte qui a marqué la France, celle des paysans du Larzac, entre 1971 et 1981, contre l'extension d'un camp militaire.
Oui, une décennie de résistance intense.
Et pour nous guider, on a une source vraiment intéressante, le bulletin numéro 80 du Cartoclub Aveyronnais. Un numéro spécial, sorti en 2022 pour les 50 ans de l'événement.
Tout à fait. Une initiative de Jean-Claude Souyéry, le fondateur du club. C'est lui qui a rédigé l'étude principale en se basant sur sa propre documentation accumulée patiemment.
Une documentation impressionnante, il faut le dire.
Oui, et il faut aussi saluer le travail de Guy Mazard, le rédacteur en chef, pour la mise en page.
Et ce bulletin, ce qui est super, c'est qu'il est plein de reproductions de cartes postales, d'affiches de l'époque. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance.
C'est une immersion visuelle, oui.
Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre les clés de cette lutte, les moments forts, et puis d'entendre aussi les voix de ceux qui l'ont vécu, grâce aux témoignages. Alors, on y va.
Allons-y.
Tout commence en 70-71. Michel Debré, ministre de la Défense, annonce un projet assez énorme.
Oui, colossal même. L'idée, c'est d'étendre le camp militaire de la cavalerie. On passerait de 3000 à 17 000 hectares.
17 000 hectares. Imaginez le choc sur le plateau.
Un choc terrible, oui. Parce que cette région, bon, vue de Paris, c'était peut-être quelques éleveurs de moutons sur une terre un peu vide, mais en réalité...
C'était pas ça du tout.
Non, il y avait une vraie vie agricole, très liée au lait pour le Roquefort, une vie sociale, des familles installées depuis des générations. Et là, le projet menace directement 103 fermes d'expropriation.
103 exploitations. La réaction a dû être immédiate.
Bah oui. Dès janvier 71, l'association Sauvegarde du Larzac est créée. C'est le début de l'organisation.
Et très vite, des soutiens arrivent. Je pense à l'évêque de Rodez, Monseigneur Menard, avec des mots très forts en novembre 71.
Oui, il dit en gros que si on n'écoute pas les gens, on leur dit qu'ils ne comptent pour rien. C'est un soutien moral important. Et puis il y a Lanza del Basto, le pacifiste, qui s'engage aussi.
Et le fameux slogan « Gardarem le Larzac, nous garderons le Larzac » qui émerge à ce moment-là.
Exactement. Le symbole de la résistance qui commence.
Et cette résistance, elle prend forme assez vite avec des actions, disons, marquantes.
Oui, il y a une grosse manif à Milo en novembre 71, déjà 6000 personnes. Et puis en mars 72, un coup d'éclat, des paysans qui vont s'enchaîner aux grilles de la caserne.
Ah oui, pendant un bal des officiers, c'est ça?
C'est ça, exactement. Qui ont bien montré leur détermination. Et c'est juste après ça que Lanza del Basto fait sa grève de la faim.
13 jours. Ça a dû avoir un impact énorme.
Énorme. Pas seulement médiatique, il apporte surtout une philosophie, une méthode, la non-violence active. Un des paysans dira qu'il a été comme le berger qui rassemble le troupeau. Ça va vraiment imprégner toute la lutte.
Et puis arrive ce moment clé, le serment des 103, le 28 mars 1972. Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est vraiment un acte fondateur. 103 paysans, sur les 107 concernés, jurent ensemble de ne jamais vendre leurs terres à l'armée. C'est plus qu'une promesse, c'est un pacte.
Une solidarité à toute épreuve, en quelque sorte.
Voilà. Un acte de désobéissance civile collectif, assumé. Ça soude le mouvement d'une manière incroyable et ça pose un défi direct à l'État.
Donc on n'est plus dans la simple protestation, là.
C'est risqué, mais c'est une stratégie. L'idée, c'est de provoquer des poursuites devant les tribunaux militaires pour pouvoir plaider leur cause, médiatiser leur lutte et dénoncer le projet. C'est assez bile.
Et les actions spectaculaires continuent. Rodez, juillet 72. Les tracteurs qui descendent du plateau.
Oui, 72 tracteurs, 20 000 personnes dans les rues. Une image forte. Et puis, la photo symbole, les brebis sur le Champ de Mars, à Paris, en octobre 72.
Ça, ça a dû faire parler. Les moutons au pied de la Tour Eiffel.
Ah ça oui, c'est la preuve qu'ils maîtrisent la communication. Ils arrivent à toucher l'opinion, en France et même à l'étranger. Les médias en parlent, les affiches, sauvons le Larzac, les cartes postales circulent partout.
C'est une vraie campagne de communication avant l'heure.
Tout à fait.
Mais malgré tout ça, fin 72, le couperet tombe. L'arrêté d'utilité publique est publié. L'État ne recule pas.
Non, l'État s'entête. Mais ça ne décourage pas les opposants, au contraire. 1973, ça monte encore d'un cran, avec cette fameuse marche des tracteurs vers Paris.
Ah oui, l'épopée des tracteurs, 26 qui partent du Larzac.
Et qui se font bloquer par les CRS à Orléans.
Et là, qu'est-ce qu'ils font? Demi-tour?
Pas du tout. Ils laissent les tracteurs et décident de continuer à pied jusqu'à Paris. Incroyable détermination.
Et sur le plateau, pendant ce temps?
Ben, sur le plateau, ils construisent. C'est le début du chantier de la bergerie de la Blaquière en juin 73.
Construite sans permis, c'est ça?
Exactement. Sur les terres de la famille Guiraud, à qui on avait refusé l'autorisation de rénover leur vieille bergerie, Marie-Yvonne Guiraud a parlé de manifestation en dur.
C'est plus qu'un bâtiment, c'est un symbole fort. Comment ils ont financé ça, Major?
Par la solidarité, essentiellement. Des souscriptions, la vente de bons ciments, et puis les comités de soutien qui organisent des opérations de refus d'impôts. L'argent récolté est versé pour la bergerie.
Des comités de soutien partout en France?
Oui, des centaines. Ils jouent un rôle crucial. Et le chantier lui-même attire des volontaires de partout pour aider la construire. C'est devenu un lieu de convergence.
Et en parallèle, il y a cet outil juridique dont on parle beaucoup, le groupement foncier agricole, le GFA. C'était quoi l'idée?
L'idée, très maligne, c'était d'acheter collectivement des terres que l'armée convoitait. Pour mimiter le terrain, le rendre très difficile, voire impossible à exproprier en un seul bloc.
Utiliser le droit privé contre la puissance publique, en somme.
C'est exactement ça. Transformer le problème en casse-tête juridique pour l'administration.
Et à côté de ça, il y a les grands rassemblements, le Rajal de Gorp.
Oui, ce site naturel spectaculaire. En août 73, c'est énorme, entre 60 000 et 80 000 personnes. C'est là qu'a lieu le fameux mariage de Lippe et du Larzac.
Lippe, l'usine de montres en autogestion.
Voilà, une alliance symbolique forte entre lutte paysanne et lutte ouvrière. C'était assez inédit.
Et l'année suivante, 74, encore plus grand.
Encore plus grand. Près de 100 000 personnes pour la moisson pour le tiers-monde. Ça montre bien que le Larzac, c'est devenu un symbole qui dépasse largement la question locale.
Qui venait à ces rassemblements?
Un peu tout le monde. Des paysans, bien sûr, mais aussi des pacifistes, des régionalistes occitans, des syndicalistes, des militants d'extrême gauche, des écolos de la première heure, des intellectuels, une coalition très large, très diverse.
Même Mitterrand y est passé, en 74.
Oui, le leader de l'opposition à l'époque. Ça montre l'ampleur politique que ça avait pris.
Mais cette lutte, elle a aussi connu des moments très durs, très tendus. Le bulletin parle de l'attentat de la Blaquière en mars 1975.
Oui, un moment terrible. Une bombe explose devant la maison des Guiraud, où dormaient 10 personnes, dont des enfants. Miraculeusement, pas de blessés graves, mais le choc a été immense.
Et on n'a jamais su qui avait fait ça.
Non, l'enquête a abouti à un non-lieu, classé sans suite. C'est ce que rappelle Marie-Yvonne Guiraud. Mais cet attentat, au lieu de faire peur, a plutôt renforcé la détermination.
La réponse a été forte, hein?
Très forte. Une journée nationale d'action juste après, des manifs partout en France. La solidarité a joué à plein.
Et la stratégie des GFA, ça a continué?
Ça s'est même développé. Ils ont continué à acheter des terres, mais surtout, ils ont eu cette idée géniale de vendre des milliers de toutes petites parts de ces terres à des sympathisants.
Des milliers, hein?
Oui, environ 3500 micropropriétaires entre 73 et 81. Imaginez le boulot pour l'État s'il fallait exproprier tout le monde.
Le canard enchaîné a même acheté sa petite parcelle, sa mare au canard.
C'est ça. Une manière hyper efficace d'impliquer les gens et de compliquer la tâche de l'administration. Redoutable.
Et pour coordonner tout ça, un journal est créé.
Oui, en 1975, Gardarem Lularzac. Il devient le lien essentiel entre tous les militants, les comités de soutien, le plateau, et il existe encore aujourd'hui.
Incroyable. Mais l'État, il ne reste pas les bras croisés.
Non, bien sûr. L'armée occupe des fermes qui avaient été rachetées par l'État. Elle détruit même des bâtiments comme le hameau du Cune en 76. Il y a des arrestations, des procès, des peines de prison pour certains militants. La tension reste vive.
Justement, le bulletin nous donne des témoignages de l'intérieur. Commençons par Pierre et Christiane Burger, agriculteurs sur le plateau. Qu'est-ce qu'ils racontent de cette période?
Ils parlent beaucoup de comment la lutte a bouleversé leur vie, leur quotidien. Du choix de la non-violence, très marqué par Lanza del Vasto, comme une évidence pour eux. De l'importance énorme de la solidarité face aux difficultés, aux menaces. L'attentat de la Blaquière les a beaucoup marqués, ils le disent.
Christiane Burger évoque aussi un sentiment un peu étrange après la victoire en 80.
Oui, elle parle d'une sorte de vide, d'appréhension même après 10 ans de mobilisation si intense qui avait rythmé toute leur vie. C'est aussi pour ça qu'elle a écrit son livre « Gardarem, chronique du Larzac en lutte ». Pour que cette mémoire reste.
C'est important de garder cette mémoire vivante.
Essentiel.
On a aussi le témoignage de Michèle Vincent. Elle n'était pas paysanne, mais militante à Paris.
Oui, originaire de Millau, mais engagée dans le comité Larzac de Paris dès 73. Son récit nous montre l'autre côté, celui des relais en ville, l'organisation des actions de soutien, la diffusion de l'info.
Elle raconte les voyages en 2 CV pour les réunions sur le plateau.
C'est ça. les longues routes pour les réunions de coordination mensuelles. Elle décrit aussi l'ambiance, les débats parfois animés entre toutes les tendances politiques qui se côtoyaient dans les comités.
Mais toujours dans le respect de la décision finale des paysans, c'est ce qu'elle souligne.
Exactement. Et elle dit à quel point ça a été une formidable école de formation politique et humaine pour elle et pour beaucoup d'autres. Ça a créé des liens très forts et ça a ouvert beaucoup de gens aux questions d'environnement.
Et puis il y a José Bové, bien sûr, figure emblématique arrivée en 73. Son témoignage est rapporté dans un article de la Dépêche du Midi. Qu'est-ce qu'il met en avant ?
Il insiste beaucoup sur l'intelligence des GFA, sur leur côté pionnier pour contrer l'État sur le terrain. Il raconte aussi l'occupation des fermes abandonnées face aux camps militaires, comme Montredon où il s'est installé en 76.
Et il utilise un terme qui résonne aujourd'hui.
Oui, il explique comment il bloquait les véhicules militaires qui s'aventuraient là, et il parle après coup de « zone à défendre », de « ZAD », bien avant que le terme soit connu. C'est intéressant de voir ce lien.
Et comme les autres, il souligne l'importance de l'élection de 81.
Absolument cruciale, selon lui.
Mais avant 81, la fin des années 70, c'est encore l'intensification des actions. Il y a cette marche incroyable de 1978.
Ah oui, la grande marche à pied de la Blaquière jusqu'à Paris, 710 km en 25 jours.
710 km ?
Oui. Environ 200 marcheurs permanents, mais rejoints par des milliers de personnes en route. L'arrivée à Paris en décembre 78, c'est une foule immense. On parle de 40 000, peut-être 100 000 personnes. Encore une démonstration de force impressionnante.
Et sur le terrain, ça continue ?
Toujours. Labour collectif sur les terres de l'armée, blocage des juges qui viennent pour les expropriations, les chantiers d'été qui attirent des centaines de jeunes pour restaurer des maisons, construire. L'inventivité est constante.
Jusqu'au printemps 81 ? Juste avant l'élection présidentielle, où la tension remonte encore.
Oui, en avril 81, des chars de l'armée s'aventurent sur les terres de Montredon. Ils sont tout de suite bloqués par les paysans avec les tracteurs. Apparemment, ça a été assez tendu.
Et puis, le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand.
Le tournant, le vrai tournant décisif.
Il s'était engagé à annuler le projet char.
Oui, pendant la campagne. Et comme le dit Bové, sans lui, c'était fini. La promesse est tenue. Très vite.
Dès juin 81.
Le 3 juin, le Conseil des ministres annule la déclaration d'utilité publique. C'est la victoire, après 10 ans de lutte.
La joie a dû être incroyable. Hein.
Immense. Michel Rocard, le nouveau ministre, est accueilli en héros à Millau quelques jours après. L'armée quitte les fermes. Et en août, une fête gigantesque au Rajal del Gorp pour célébrer.
Fin de l'histoire ?
Pas tout à fait. Il restait ces 6300 hectares que l'État avait achetés. Qu'est-ce qu'on en a fait ?
Bonne question. Et la solution trouvée est, là encore, assez unique. En 1985, il crée la Société civile des terres du Larzac, la SCTL.
C'est-à-dire, l'État reste propriétaire des terres, mais il en confie la gestion à cette SCTL. Pour 99 ans, via un bail spécial, un bail emphytéotique.
Et c'est cette société civile qui gère les terres.
Exactement. C'est elle qui décide, qui s'installe, qui exploite. Ça a permis d'installer beaucoup de jeunes agriculteurs, de maintenir une agriculture vivante. C'est une forme d'autogestion foncière assez exemplaire, un héritage très concret.
Et au-delà de ça, l'esprit du Larzac, il est resté.
Ah oui, clairement. Le Larzac est resté un symbole de résistance. On pense aux luttes contre les OGM à la fin des années 90, au démontage du McDo de Milo.
José Bové encore ?
Oui. Puis le grand rassemblement altermondialiste en 2003, toujours là-bas. Et plus récemment, contre les gaz de schiste. C'est resté une terre de mobilisation.
Les lieux même sont marqués par cette histoire. La Blaquière, bien sûr.
La bergerie cathédrale, oui, mais aussi des villages, des fermes. Et c'est là qu'on voit l'importance de documents, comme ce bulletin du Cartoclub. En rassemblant les affiches, les cartes postales, et surtout les témoignages des Burguières, de Michel Vincent, de Bové, il permet de garder cette mémoire vivante.
Une histoire incroyable, vraiment. 10 ans de résistance, non violente pour l'essentiel, inventive, solidaire. Et qui gagne à la fin. Des moutons, pas des canons, comme disait le slogan.
C'est ça. Et la question qui reste, peut-être, 50 ans après, c'est qu'est-ce que cette histoire nous dit aujourd'hui ? Comment cette lutte d'une communauté locale pour sa terre, sa dignité, face à l'État, peut nous éclairer ?
Face aux enjeux actuels sur la terre, l'environnement, la démocratie locale, les grands projets inutiles, quelles leçons tirer du Larzac ? C'est une piste de réflexion intéressante. Merci d'avoir exploré avec nous cette page d'histoire à travers le regard précieux du bulletin du Cartoclub Aveyronnais.